Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je vais donc avoir le plaisir de vous parler d'éducation, alors d'éducation au sens large, pour essayer ensemble de comprendre comment un individu, les individus, c'est-à-dire depuis le petit enfant jusqu'à l'adulte, entretiennent des liens avec le monde qui les entoure, et comment en tant qu'éducateur, nous pouvons intervenir sur ces liens. Mais avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais moi mieux vous connaître et savoir qui j'ai autour de moi, puisque je suis au milieu de l'arène, ici. Et je vais vous demander un petit exercice physique, je vais vous demander de lever la main. Je vais vous demander de lever la main ceux parmi vous qui, dans leur pratique professionnelle, interviennent auprès d'un public de jeunes enfants, disons de moins de 7 ans. Ok, alors vous pouvez baisser les mains, vous pouvez la relever plusieurs fois bien évidemment. Je vais vous demander aussi de lever la main si vous intervenez auprès d'un public d'enfants d'âge école primaire, donc de 6-7 ans jusqu'à 11-12 ans. Ok, merci. Et alors, si vous travaillez comme ça occasionnellement ou régulièrement avec des adolescents, donc 11-12 ans jusqu'à 17-18, oui. Ok, merci. Et alors, auprès de jeunes adultes, disons 17-18 ans jusqu'à 30 ans. Ok, merci. Et enfin, auprès, disons, d'hommes et de femmes mûrs et accomplis de plus de 30 ans. Ok, bien, merci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais partir d'une affirmation. Pour moi, toute éducation est créatrice de culture. J'attends que ça puisse suivre sur tous les écrans, que vous le voyez tous. Donc toute éducation est créatrice de culture et toute éducation est influencée par la culture de celui qui prodigue l'éducation, qui met en place le projet d'éducation, mais aussi, évidemment, et très fort, par la culture des personnes, des individus auxquels ce projet d'éducation est destiné. Qu'est-ce que j'entends par culture ? Par culture, j'entends la carte du monde, que tous, nous nous sommes façonnés depuis notre plus tendre enfance, et qui nous permet de vivre, d'évoluer, de nous situer et de nous orienter dans ce monde. Ma carte du monde, elle est faite de mes représentations, de mes images mentales, qui concernent principalement trois choses que nous regarderons plus en détail. Elles concernent d'abord moi-même, qui je suis, l'inventaire que je fais de mon équipement, c'est-à-dire mon identité. Deuxièmement, elle est faite de ma vision des éléments du monde autour de moi. Comment je vois le relief, les autres, l'environnement autour de moi, quel est le regard que je porte dessus, quelle image je m'en construis. Et enfin, elle est faite d'une boussole qui me permet à chaque moment de m'orienter, de choisir ma direction, c'est-à-dire mon système de valeurs. C'est lui qui est fait de mes normes, mes codes de conduite suivant les circonstances, mes règles de vie, etc., etc. Pour moi, tout projet d'éducation cherche à agir sur ces trois dimensions. Et elle doit impérativement tenir compte d'où en est chaque individu par rapport à chacune de ces dimensions, sous peine d'être inaudible de son public ou de rater son but. Et de ces représentations dans ces trois domaines découlent les connaissances, les compétences, les capacités visé par l'éducation et qu'on appelle plus communément en langage de pédagogue les savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir-devenir, etc., etc., etc. Je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ces trois dimensions. D'abord l'identité. L'identité, c'est un puzzle flottant, évolutif, complexe, qui répond à la question, somme toute très simple, « Qui suis-je ? La réponse à cette question est évidemment différente selon les circonstances. Par exemple, je ne me définirai pas sans doute exactement de la même manière dans un contexte professionnel et dans un contexte privé. Elle diffère selon l'âge. Je ne dis pas la même chose de moi aujourd'hui que ce que je disais de moi à 10 ans ou à 20 ans. Et surtout, selon ce que les autres et le monde autour de moi, ma famille, mes collègues, mes amis, la société, me renvoient comme image de moi. Et je reviendrai là-dessus. Cette conscience de l'identité, de son existence propre, l'enfant l'acquiert progressivement. Un des premiers signes, bien connu des parents, c'est le fameux stade du non, vers 2 ans, quand l'enfant commence à dire non à tout. C'est le moment où il commence à affirmer sa volonté propre, à se donner le nom qu'il a reçu, et puis progressivement à dire « je ». Il se construit ensuite progressivement une image de soi en observant, en imitant les adultes autour de lui et les autres enfants, parfois même jusqu'à la caricature, et en se comparant aux autres, par un double mouvement qui est celui de l'identification, comment je me projette dans une autre personne et j'en prends des caractéristiques pour les intégrer, et par un processus de différenciation, c'est-à-dire comment je peux, moi, identifier que je suis différent de telle ou telle autre personne par un certain nombre de caractéristiques qui forment évidemment mon individualité. Alors avec la préadolescence et puis l'adolescence, ces modèles de référence ou de rejet se multiplient, se diversifient, s'élargissent. Et l'importance des autres groupes de référence que la famille ou que les éducateurs va grandissant. Ce sont les groupes de camarades, les groupes de pères. Les modèles familiaux sont remis en question pour permettre aux jeunes d'acquérir sa propre identité. Avec l'âge adulte, ce mouvement se stabilise. En principe, en tant qu'adulte, on se questionne moins sur son identité qu'en tant qu'adolescent. Quoique, ça ne s'arrête pas tout à fait non plus. Ça reste évolutif, en lien avec les différentes étapes de la vie. Par exemple, le parcours familial, le parcours professionnel, un engagement associatif, ou toute autre circonstance de la vie. Voilà pour l'identité. Deuxième élément, ma vision du monde. Avant l'âge de 2-3 ans, la plupart des enfants font peu de différence entre les êtres, les comportements, les circonstances de vie, etc., etc. Le monde, pour eux, forme un tout. Ensuite, leur compréhension du monde en grandissant se construit progressivement par un phénomène de cataloguer les éléments du monde extérieur et généraliser ce qu'ils observent aux êtres ou aux comportements qui ont les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire en mettant des étiquettes sur leurs expériences. Voyez, ces meubles qu'on trouvait dans les anciennes pharmacies, ces grandes armoires, pleines de petits tiroirs, avec des étiquettes qui disaient ce qu'il y avait dans le tiroir. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, et c'est comme ça qu'il appréhende et qu'il forge sa vision du monde, en mettant des étiquettes, en créant des petits tiroirs, en mettant dedans un certain nombre de caractéristiques, et en mettant une étiquette dessus. On classe, on range, on catalogue. Pour les enfants, et ce mouvement se poursuit à l'âge adulte, le monde est ainsi rendu classifiable, compréhensible, prévisible et donc plus facilement gérable. Ainsi, c'est par la création de stéréotypes mentaux que se construit notre vision du monde. Ceux-ci correspondent à nos expériences personnelles et aux visions du monde transmises également par notre entourage familial, scolaire, professionnel, etc. Comme une éponge, on prend et on intègre et on fait notre propre meuble à tiroir avec tout ce que l'on reçoit. Et ce meuble change de moins en moins avec les années. Cette vision du monde, elle est de moins en moins élastique avec le temps, car notre cerveau, par souci d'économie, tend à maintenir une certaine stabilité dans notre vision du monde. Et pour ça, il a tendance à jauger différemment les informations qui ne correspondent pas à cette vision du monde qu'il s'est construite. Par exemple, si je considère le monde comme un endroit dangereux, j'ai tendance à survaloriser les informations qui confirment cette opinion et à prêter peu d'attention ou de crédit aux informations rassurantes qui me parviennent. C'est ce qui explique que certaines théories, opinions, visions du monde ont la vie dure et qu'on dit généralement qu'il faut une ou deux générations pour changer les mentalités. C'est aussi ce qui explique que plus la sensibilisation, par exemple et au hasard, aux enjeux environnementaux, commence tôt, plus elle a des chances de s'inscrire durablement dans la carte du monde d'un individu. Troisième élément, ma boussole, mon système de valeurs, qu'on appelle communément le sens moral. Depuis les travaux d'un chercheur américain qui s'appelait Lawrence Kohlberg, on distingue en général trois paliers de développement moral chez l'individu. Je vais vous les citer, vous les expliquer très rapidement. Vous pouvez trouver beaucoup plus de détails là-dessus sur Wikipédia. Le premier palier, c'est le palier préconventionnel, constitué en général avant l'âge de 7 ans. Il se caractérise par l'égocentrisme. Et au cours de ce palier, l'enfant intègre certaines règles de comportement en fonction de son intérêt propre, c'est-à-dire éviter les punitions, obtenir des récompenses. Ce sont les conséquences pour lui-même, réelles ou qu'il imagine, qui lui permettent de juger si un comportement est bien ou pas. Le deuxième palier, c'est le palier conventionnel, d'à peu près 7 ans à plus ou moins 15 ans dans l'étude de Kohlberg. Et durant ce palier, l'individu apprend à satisfaire des attentes, à obéir à des lois et à des règles générales qui ne satisfont pas nécessairement son intérêt propre ou immédiat. Il intègre progressivement les règles des groupes dont il fait partie et les normes sociales plus larges. Sa principale boussole est « Que va-t-on penser de moi ?» Et puis progressivement, le respect des lois en tant que tel, même s'il sait qu'il peut échapper à la sanction, s'intègre. Pour lui, être moral, c'est respecter les lois, c'est respecter les règles. Et enfin, le troisième palier, qu'on appelle le palier post-conventionnel, est caractérisé par un jugement moral qui se base sur l'évaluation individuelle en fonction de ses propres valeurs. Après avoir expérimenté un certain nombre de choses, l'individu est prêt à enfreindre une loi s'il la juge mauvaise ou à condamner comme immoral un comportement que la loi autorise. Ce jugement moral se fonde sur des valeurs à portée universelle et sur une réflexion éthique individuelle qui est en constante évolution tout au cours de la vie. Il y a chez les individus qui atteignent ce palier un sentiment d'engagement par rapport à ces valeurs. Mais, parce qu'il y a un mais, tous les individus n'atteignent pas forcément ce palier, ou pas dans tous les domaines. Alors, en tant qu'éducateurs, nous cherchons évidemment à toucher les consciences, à conscientiser, en espérant que cela influence un certain nombre de comportements, comportements de consommation, de mobilité, de tri, et que sais-je. À plus ou moins court ou long terme. Et toute action d'éducation, de sensibilisation, de formation, etc., cherche donc à influencer cette carte du monde, puisque c'est elle qui guide les comportements. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est essentiel que nos projets d'éducation tiennent compte de la carte du monde des individus que nous avons en face de nous. Si nous n'en tenons pas compte, nous risquons d'être inaudibles, de passer à côté de notre public, nous risquons de créer des phénomènes de résistance ou de rejet. Je prends un petit exemple là-dessus. Si auprès de groupes de parents, moi j'ai travaillé énormément avec des groupes de parents, si avec un groupe de parents je viens sur un discours sur les habitudes de consommation et limiter le suremballage, etc. etc. Hein. Faire des cakes maison plutôt que d'acheter des gaufres pré-emballées, par exemple. Je sais que je vais avoir face à moi un certain nombre de parents qui, comme valeur, ont à l'intérieur d'eux-mêmes le fait de donner le meilleur à leur enfant ou de faire plaisir à leur enfant en lui donnant la friandise qu'il aime pour son goûter, pour sa collation, etc., etc. Et le discours avec lequel je vais venir va les mettre directement en opposition avec leurs valeurs de parents et leur image et leur identité de parents de bon parent qui fait ce qu'il faut pour prendre bien soin de son enfant et créer une tension. Je dois tenir compte de cette tension dans toute action que je mets en place auprès de ces groupes de parents. Voilà, alors comment ces représentations se construisent-elles ? Comment est-ce qu'on se fait cette carte du monde ? Essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, en miroir avec les messages qui sont véhiculés par l'entourage direct, familial, social, professionnel, amical, mais aussi l'entourage plus largement sociétal. Ces messages sont parfois explicites. « Ah, toi, tu es comme ceci, tu es comme cela. Ce qui est important pour toi, c'est ceci, c'est cela. Il faut agir comme ceci, comme cela. Il faut faire attention à ceci, etc. » Mais ils sont aussi souvent implicites. Il s'agit des réactions, des comportements que je peux observer dans mon entourage, mais aussi plus largement, des images qui sont véhiculées par la société et répercutées par les films, séries TV, les infos utilisées par le monde de la publicité, etc., etc. Toutes ces images forgent des modèles identificatoires, des visions du monde. Appuient des valeurs, les transmettent en tout cas, valorisent ou dévalorisent certains comportements, et les enfants en particulier, mais aussi les adultes que nous sommes, captent consciemment ou inconsciemment ces messages par identification, par projection, par empathie, etc., etc. Et nous intégrons tous ces données dans notre carte du monde. Alors, en empruntant au monde de la communication et de la pub, qui adore les mots anglais, tous ces messages implicites véhiculent ce que l'on appelle des frames. Alors, que sont les frames ? Ce sont des clichés, des schémas de pensée, des valeurs sous-tendues, des modes de raisonnement qui sont sous-tendus par les images, par les messages. Je me suis amusé à faire une rapide petite recherche sur certains visuels en matière d'environnement ou de développement durable, pour illustrer le concept de frame. Alors, j'en ai sélectionné quatre. Évidemment, ça n'est pas une étude scientifique et vous auriez certainement beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, beaucoup plus que ce que je vais vous en dire maintenant, certainement. Voilà. Alors, par exemple, on a parmi les frames qui sont véhiculés, il y a le frame de la pollution, l'écosystème en danger. On a le frame du jardin d'Éden, de la nature comme paradis, comme source d'émerveillement, comme bien à préserver. On a le frame de la disparition des espèces, de la biodiversité en danger. On a le frame de l'alternative responsable, ici en matière par exemple de matériaux de construction ou d'isolation, etc., etc., etc. Donc ce n'est qu'un aperçu très rapide qui ne se veut évidemment pas du tout exhaustif, mais simplement mettre l'accent sur ce concept de frame pour attirer votre attention dessus. En tant qu'éducateur, quel est le message que nous voulons faire passer ? Quel est le frame que nous allons utiliser ? Et celui-ci dépend évidemment de deux choses. Premièrement, des objectifs éducatifs que nous souhaitons atteindre. Et deuxièmement, des messages déjà intégrés par notre public. Messages qui soit vont dans le même sens que celui dont nous sommes porteurs, soit évidemment peuvent être contradictoires avec celui-ci. Je vous invite donc, pour mener à bien nos projets d'éducation, à revenir au cœur de nos messages, c'est-à-dire à les analyser, pour prendre conscience des frames que nous mobilisons, auprès de qui et dans quel but. Un exercice que je trouve intéressant à faire là-dessus, par exemple, dans le cas d'une animation, d'un projet éducatif, quel qu'il soit, c'est d'essayer de synthétiser le message que je veux porter à travers ce projet-là en une phrase. Alors, sans tricher, s'il y a 25 virgules dans ma phrase, ça ne sert évidemment à rien. Mais en une phrase, quel est le message dont je suis porteur ? Ce sera forcément réducteur, mais ça pose la question de qu'est-ce qui est au centre. Et pour terminer, Je voudrais citer Ovide de Croly, un pédagogue bien connu, en tout cas dans le monde francophone, et qui évoque l'objet de l'éducation dans ces quelques termes. Il parle de la connaissance par l'enfant de sa propre personnalité, la prise de conscience de son moi, et par conséquent de ses besoins, de ses aspirations, de ses buts, et en fin de compte de son idéal. La connaissance des conditions du milieu naturel et humain dans lequel il vit, dont il dépend et sur lequel il doit agir pour que ses besoins, ses aspirations, ses buts, son idéal soient accessibles puis réalisés, pour être consciemment et intelligemment solidaire. Merci.